Vous écoutez Radio Show Football, la bande à Baggio, l'émission 100% foot.
Les Brésiliens sont en blanc, à Mehdi Pelé. Ça débute, fabuleux.
On retraite, c'est bien fait.
Allez mon petit bonhomme.
It comes for Cantona! I don't believe it!
La frappe de Neymar!
Quel but!
Le face-à-face! Ouais! Et voilà! Antoine Griezmann à la 27e minute!
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille!
At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong, I learned how to get along. And so you're...
Bonsoir à tous, on se retrouve donc pour ce nouveau podcast avec Joseph et Thibaut qui vont me rejoindre un peu plus tard. Nico n'est pas là, malheureusement, on lui passe un petit concours. Donc Joseph, ce match de l'équipe de France avec cette qualification finalement méritée, je trouve, 1-0 face à la Belgique et l'équipe de France est une nouvelle fois en finale de la Coupe du Monde après 2006. Alors comment t'as vécu cette soirée, toi ?
Alors tout d'abord, salut à tous les auditeurs. Coucou à Nico et à tous les fans de l'équipe de France qui, j'espère, comme moi, ont passé une belle soirée. Moi, j'ai eu la chance de vivre ce match en fait avec les Irrestibles français. On a fait un rassemblement entre nous parce que bon, je vais commencer par un petit coup de gueule. Hein. Bon,
vas-y,
la mairie de Paris, voilà, la mairie de Paris n'a rien fait pendant cette Coupe du Monde pour que ça soit vraiment quelque chose de festif. On aurait pu, pour cette demi-finale, aller sur la fan zone de l'Hôtel de Ville, mais on n'a pas pris de risque parce que je trouvais que Hôtel de Ville pour une demi-finale c'était peut-être un peu petit.
Ouais.
C'était peut-être un peu petit. On voulait pas prendre le risque. Mine de rien, au rassemblement hier, on était un peu plus d'une cinquantaine. On voulait pas prendre le risque d'aller dans la foule et pas forcément être ensemble. Donc on avait fait un autre choix. Mais pour revenir sur la soirée, vivre ce type d'émotion quelques années avant, tout le monde parle de 20 ans après parce que on retient la victoire, mais moi je parlerai plutôt de 12 ans après.
Ouais.
Parce que en fait en 2006 c'était la même, quoi.
Ouais.
C'était la même et c'est pour ça en fait qu'on aime les grandes compétitions. C'est pour vivre ce type d'émotion sans, bon, je parle pas trop du terrain pour l'instant, mais le côté voir ses potes pleurer pour du foot, enfin même moi perso, avoir le limite les larmes aux yeux, tomber dans les bras de tous ceux qui sont là, voilà c'est en termes d'émotion, il y a que le sport et le foot en particulier pour vivre ce type de moment. Donc une très belle soirée.
Bah écoute, vas-y Thibaut, tes impressions pour cette soirée que tu as vécue hier avec les Irrestibles.
Bah c'était franchement une soirée de ouf. On était un peu stressé à la fin du match, mais après c'était l'explosion de joie. Donc Joe était bien passé pour en parler comme moi. C'était beaucoup d'excitation, de stress et après la libération.
Et vous avez vraiment stressé pendant ce match-là, parce que moi je l'ai vécu vraiment tranquillement. Hein. J'étais plus ou moins certain que la France allait gagner avec le temps, et je pensais vraiment pas voir les Belges gagner. Je sais pas, j'avais une force tranquille, un peu comme disait Aimé Jacquet là à une époque.
Ouais.
Cette équipe de France dégage tellement de puissance collective. Il y a une âme, il y a, tu sais, je disais en rigolant à Joseph l'autre jour, la France, elle a plus besoin de football pour gagner la finale, elle va y aller avec la confiance.
C'est pas l'un des temps. Alors moi, je te cache pas que peut-être pas autant de confiance que toi, mais je dirais plus de la sérénité. En fait, le seul moment de stress en fait que j'ai eu moi pendant le match, c'était après le premier but, bizarrement, quand on enchaîne les occasions et qu'on conclut pas, parce
ouais.
que parce que tu dis toujours en fait à rater le coche à un moment, tu vas le payer, mais l'absence de réaction en fait, je trouve, hein, des Belges qui en fait se sont plus énervés qu'autre chose, a fait que même en fin de match, voilà, moi le seul truc que j'attendais c'est que ça siffle. J'étais pas stressé du tout, quoi.
Ouais.
Et... sur la fin de match en tout cas.
Ouais. Et comment vous avez vécu, on va dire le premier but des Français? Est-ce que pour vous c'était fini le match à ce moment-là, ou vous pensiez vraiment que les Belges allaient revenir?
Bah moi, si tu veux, moi j'étais. À la fois, je me disais que le match était loin d'être fini, parce qu'on sait. Je me rappelle du match contre Daniel, le Japon, c'est pas la France. Ils ont su réagir tout de suite, même 2-0, ils sont revenus rapidement. Je me suis dit, un coup de pied arrêté ou une déviation, on sait jamais, tu vois. Donc j'étais pas confiant à 100%. Je me disais, c'était bien. Si on ouvre le score, j'ai dit que c'était bien parti, on va obliger les Belges à sortir plus. Mmh. Mais bah, voilà.
Ouais. Et toi, Joseph, comment t'as. Ce premier but, est-ce que pour toi c'était une délivrance, ou c'était le début de, ouais, on va dire le début d'un long match encore, quoi.
Ah ouais, non, ouais, bon, il y avait le côté forcément délivrance, parce que bon, c'est le premier but du match, et pour le coup c'est le but qui nous envoie en finale. Mais pour moi le taf il était fait à partir du moment où on avait ouvert le score. Pour moi le taf il était fait, parce que derrière on avait une telle solidité, et par rapport en fait à ce qu'avaient montré les Belges, j'avais du mal en fait à croire que la défense serait mise à mal. Et quand on regarde bien, en fait, après le but, les Belges ont été de moins en moins dangereux. Mmh. Avant le match, je disais à des collègues, ce qui me mettait en confiance, c'était de me dire que on parle toujours d'expérience par rapport aux joueurs et par rapport à leur expérience, par rapport à ce qu'ils font en club, mais en équipe nationale, ça reste différent. Et je pense que le fait d'avoir Didier Deschamps et son staff, bah, qui l'ont gagné en tant que joueur, même si on pourra me dire qu'il y avait Thierry Henry de l'autre côté, l'appréhension elle est différente quand il y a quelqu'un qui te raconte son histoire. Et je me disais ben, les Belges ça va être les Français des années 80, quoi, hormis Euro 84, hein. Ça va être les Français des années 80, c'est-à-dire que ils ont tout pour la gagne. Et pourtant, en fait, ils vont avoir les pieds qui tremblent et le petit truc qui manque pour que ça passe. Et finalement, c'est ce qui s'est passé, quoi. Mmh. C'est que sur le papier, ils avaient largement de quoi rivaliser. Et puis finalement, en fait, sur le terrain, les mecs, ils ont pas forcément tous été à la hauteur, quoi.
Mmh. Et quand ils disent à la fin du match qu'ils ont été, on était la meilleure équipe du monde, etc. Mmh. C'est un peu se foutre de la gueule, parce que contre le Brésil,
ils sont pas. Ouais.
Mais Hazard aussi, Kevin De Bruyne aussi, si tu veux. Donc, s'ils étaient le meilleur, ils auraient marqué. Hein. Mmh.
Mais tu sais, ça rejoint un sujet que je voulais aborder un peu plus tard dans l'émission. Mais c'est certain que quand tu entends les déclarations à la fin du match de Thibaut Courtois compagnie, qui disent justement que la France méritait pas plus que de gagner le match, mais oui, mais les gars, mais à ce moment-là, fallait montrer autre chose, fallait montrer des qualités sur des phases offensives beaucoup plus concrètes, au lieu de faire des frappes de loin, de tenter des choses individuelles. France a travaillé en équipe, autant défensivement avec l'attaque que avec la défense. Quand tu vois Olivier Giroud qui a fait un travail de sape, mais pendant 90 minutes à faire un pressing de malade, comme Antoine Griezmann à la fin du match qui a couru sur trois joueurs, le gardien Alderweireld et puis je sais plus Vertonghen, pour les empêcher de relancer alors qu'il restait 5 ou 6 minutes, c'est un truc exceptionnel qu'ils ont fait collectivement en France. Matuidi qui s'est sacrifié, tu vois, mourir sur le terrain, on sait ce que ça veut dire avec Matuidi.
Ah ouais, non, carrément.
Ça c'est clair.
Ouais, non, j'ai trouvé que ça manquait vraiment de classe, qu'ils reconnaissent pas, justement, que, je vais pas dire qu'ils ont perdu contre plus fort, parce que, ça veut rien dire perdre contre plus fort, parce que des fois tu gagnes contre plus fort, mais d'accepter cette défaite. Et justement, ça rejoint ce que je disais dans le côté, le français qui est le beau perdant, quoi. Comme avant, quand on perdait contre les équipes italiennes dans les coupes d'Europe, on se dit toujours ouais, il y avait la place, mais finalement non, on était plus fort qu'eux, mais ils sont passés.
À quel moment on était plus fort sur le papier,
non mais voilà c'est ça. Et franchement, enfin, moi je trouve que la victoire française, pour moi, elle souffre d'aucune contestation.
Ouais.
Les Belges, voilà, ils sont partis pied au plancher, ça n'a pas été suffisant. Et après, comme tu dis, quand tu vois que le premier défenseur c'est Giroud, Et quand tu vois le taf qu'il a fait, il a facilité le travail de tout le monde derrière.
Et oui.
C'est ouais, voilà, c'est une grosse performance collective. Et le foot, ça reste encore un sport collectif. Et on pourra dire ce qu'on veut. Ben aujourd'hui, la France, c'est peut-être la seule équipe dans tout ce qui était favori outsider. La France, c'était la seule qui avait une équipe. Il n'y avait pas le côté
une star un
homme providentiel qui doit gérer pour tout le monde. Voilà.
Tout le monde est au service du collectif. Moi, ce que j'étais gars, cette équipe, c'est il y a la sérénité, mais on sent vraiment qu'il y a une. Les joueurs s'entendent bien sur le terrain, même en dehors. Et on sent qu'il y a une véritable osmose. Et puis, il faut féliciter le coach pour ça.
Ah ouais. C'est ça.
Mais de toute manière, dans cet entame de match, quand on a vu les Belges s'investir à fond pendant 25 minutes, 30 minutes à essayer de marquer, ils ont tout donné, ils n'ont pas réussi à marquer. Moi, je me suis dit, là, la France, il y a un coup à jouer. Ils peuvent marquer avant la mi-temps. Et le but est arrivé pratiquement pas forcément plus tard, mais il est arrivé assez vite par rapport au moment fort de la Belgique qui a faibli tout de suite. Juste à la fin du moment fort belge, la France a su un peu sentir l'odeur du sang où les Belges étaient fatigués. Ouais. Et ils ont piqué là où ça faisait vraiment mal. Et les Belges ont été incapables de riposter de façon aussi agressive.
Mais d'ailleurs, ils s'en sortent bien. Ils s'en sortent bien, les Belges. Moi, je te coupe. Ils s'en sortent bien, les Belges. Parce
le
que juste après le but,
loin,
juste après le but, tu sens que ça peut s'enchaîner un deuxième, un troisième, quoi. Et puis voilà, enfin, bon, je pense que je sais pas si t'avais prévu d'en parler, mais la fameuse action avec la talonnade de Mbappé.
Oui. Oui, c'est de la grande classe. À 19 ans, tu fais ça, voilà, t'es à l'aise. Hein,
on sentait que ça déroulait, quoi. On sentait que ça déroulait et que ça pouvait très mal se finir.
Ah ouais.
C'est ça. Non, c'est ça.
Au milieu de terrain, les Belges prenaient complètement.
Pour les Belges, quoi. Ah, oui.
Et juste avant clairement. Le but, si tu veux, Joe, excuse-moi de t'avoir interrompu. Donc, c'est vrai qu'au milieu de terrain, on sentait avant même le but qu'ils prenaient l'eau. Je veux dire, Kanté qui était en train de leur marcher dessus en récupérant le ballon. Pogba physiquement qui était en train de dominer son duel avec Fellaini. Et puis, on sentait vraiment que c'était inévitable, qu'un moment, ça allait passer. Et puis, au milieu de terrain, les Belges ont été submergés au milieu de terrain, je trouve, dans ce match.
Ouais.
Complètement, complètement. Bah, c'est exactement le sujet que je pensais aborder juste après. Bah, le milieu de terrain belge qu'on attendait plus ou moins, bah, il a été complètement dépassé par Matuidi, Kanté et Pogba, qui ont fait un travail énorme défensivement et de placement, positionnement, tactique hyper intelligent. Moi, je reviens toujours à cette équipe de France vraiment qui a atteint une maturité dans l'esprit tactique d'aborder un match de Coupe du Monde, un grand match, je veux dire, par rapport à un match amical. Ils nous l'ont montré, vous savez, par rapport à la phase de groupe, où ils ont géré physiquement leur effectif et tous les joueurs. Et arrivés dès les huitièmes, ils ont commencé à donner plus ou moins leur capacité. Ils ont mis leur capacité plus ou moins à 100% sur chaque match. Et ils se sont retenus vraiment sur la phase de groupe. Et je trouve vraiment que cette équipe de France a une maturité qui n'avait pas forcément à l'Euro 2016, où ils sont arrivés en finale complètement cramés. Et, et vraiment, je trouve vraiment que ce milieu belge-là, Fellaini a pris l'eau, mais de toutes parts, comme a dit Thibaut. On aurait dû voir deux cartons jaunes, je trouve, à un moment donné, pour certains joueurs belges-là, et se faire sortir.
Non, clairement, clairement. Mais après, quand tu dis dépasser physiquement, après, je pense aussi qu'il y a le côté... dépassé par les événements aussi. Tu vois, quand on voit que Fellaini sur son parcours des Belges, ça a quand même été un pion important. Vu que, enfin, voilà, il a souvent fait la diff. Fellaini, c'est pas un titulaire en puissance dans son club.
C'est ça.
Dans son club. On a beaucoup vanté en fait le mondial d'Eden Hazard, mais finalement en fait Hazard, il a fait le job dans les matchs où il devait le faire. Enfin, mais il a pas forcément donné plus et la Coupe du Monde. Enfin voilà, la Coupe du Monde, on te demande plus que ce que tu sais faire. Et que ça soit Hazard, que ça soit De Bruyne ou même les Belges en général, ils ont juste fait ce qu'ils savaient faire. Hier, ils ont fait ce qu'ils savaient faire, mais c'était pas suffisant. C'était pas suffisant.
C'est exactement ça. La France est en cran au-dessus, faut juste qu'ils l'acceptent. Hein.
Voilà, quand on rigolait, bon, je fais un flashback, quoi. Quand on rigolait sur le, enfin, on rigolait, enfin, peut-être même plus que ça, c'était même pas rigoler, c'était être épaté parce qu'il avait fait, quoi, le but de Benjamin Pavard. Typiquement, ben voilà, il a fait au-delà de ce qu'il sait faire. Umtiti hier, quand il marque hier, c'est pas lui qu'on attend pour aller mettre la tête. Et ouais. Pourtant, voilà, bah, le mec, il y va. Et en plus, il bouffe Fellaini. C'est-à-dire que le gars, il sait qu'il doit faire un effort. Je vais pas forcément dire surhumain, mais il doit faire beaucoup plus, pour faire la diff. Et il l'a fait. Et hier, justement, voilà, c'est une belle prestation collective où tout le monde a été au-delà de ce qu'il savait faire.
Ah, tout à fait, ouais. Et toi, Thibaut, qu'est-ce que t'as trouvé bon et mauvais chez les Belges hier dans le match?
Bah bon, ça va pas être compliqué, on va être tous d'accord tous les trois, Thibaut Courtois, pour moi qui a été le meilleur Belge sur le terrain. Après, j'ai trouvé, l'absence de relation, surtout entre De Bruyne et Hazard, où à un moment les deux sont un peu marchés dessus, j'ai une action où ils étaient tous les deux côté gauche. Ils étaient complètement déséquilibrés, l'équipe belge. Et j'avais dit, de toute façon, je sais pas si tu te rappelles, Gabi, c'est que si la France arrivait à couper ce lien entre De Bruyne et Hazard, ils ont une bonne partie du match gagné. Le jeu belge repose beaucoup sur ces deux joueurs. Si tu arrives à les priver ou à les empêcher de jouer, ils sont complètement perdus. Et Fellaini, et après les autres, sont obligés de sauter carrément du terrain. Puis, normalement, ça m'a lancé des longs ballons sur Lukaku.
Vas-y, Joseph.
Mais j'allais dire. Après, en même temps, je pense que Martinez, il s'est retrouvé piégé par sa fausse bonne idée. Parce que on l'a encensé en disant, le coach, il a réussi à faire jouer, en fait, à trouver une compo pour faire jouer et Hazard et De Bruyne. Alors que, dans l'absolu, ils ont des profils à peu près identiques. C'est-à-dire des mecs qui jouent en percussion et tout. Et, en gros, il a tout fait pour pas faire de choix. Et je pense que sur un match comme hier, ça s'est retourné contre lui.
Ouais.
Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Il a rien vraiment changé par rapport à, je trouve, mis à part mettre Fellaini, titulaire, je trouve qu'il n'y a pas eu forcément de gros changements dans cette équipe belge. Meunier, ça a été un plot important qui n'était pas là parce que il aurait pu, avec ses montées, justement, côté gauche ou côté droit, je sais pas si quel côté il l'aurait mis, plus côté gauche, à mon avis. Mais je pense que Meunier, il a beaucoup manqué à cette équipe parce que si vous avez remarqué, ils ont joué en 3-5-2 la Belgique, il y avait trois défenseurs centraux et aucun débordement sur les côtés. Ils essayaient de passer dans l'entonnoir avec Eden Hazard, Lukaku, mais contre Varane et contre Umtiti, ça passe pas, ça, c'est impossible.
Surtout le Varane d'hier, quoi.
Et puis Dembélé, de toute façon, à la base, c'est un milieu de terrain, il est excellent. À Tottenham, mais il joue au milieu, il n'y a pas ce côté droit, il est droit, il était complètement paumé, Dembélé. Alors que s'il y aurait eu Thomas Meunier, Dembélé, à ce moment-là, tu mets à la place de Fellaini, de Witzel, et puis les Belges auraient été mieux équilibrés.
Mais vous n'aviez pas l'impression à un moment donné que justement le coach Roberto Martinez là s'attendait à un exploit de De Bruyne, une frappe un peu contre le Brésil, parce que Eden Hazard il semblait vraiment perdu, hein. Et si vous voulez, à un moment donné, j'ai trouvé qu'ils essayaient de trouver un corner pour justement avoir une action, mais ça combinait plus du tout, il n'y avait plus de combinaison. Lukaku était vraiment un joueur qui ne servait plus à rien dans le système.
Ah oui, ça va. C'est la gestion de l'événement, en fait. Ouais. C'est la gestion de l'événement. C'est que à un moment, quand t'as des vedettes et qu'il faut faire la diff, tout le monde va être à la une du journal le lendemain, quoi. Ouais. Et c'est pour ça qu'à un moment, tu vois, Eden Hazard, il a voulu jouer sa partition solo. Et je pense qu'il a commencé à faire tirer son équipe vers le bas, quoi.
Ouais. C'est vrai que par un Eden Hazard, par rapport, je trouve, à des joueurs comme Mbappé ou d'autres qui sont en pleine progression, même Griezmann, Eden Hazard, je trouve qu'il a vraiment stagné dans sa façon de voir le football. Si vous regardez les interviews d'après-match avec justement cette arrogance que peut dégager Thibaut Courtois et certains autres joueurs qui jouent en première ligue en se disant les Français, la Ligue 1, c'est pas des joueurs qui ont gagné des Champions League, etc., sauf Varane. Il y avait une forme d'arrogance, j'ai trouvé, dans les fans d'interview. C'est plus ça qui me dérangeait, moi. C'est pas le mépris, tu sais, d'avoir gagné d'avoir perdu par rapport à un fait de jeu, mais il y avait une forme de mépris dans les déclarations. Vous avez senti ça,
en fait, moi, je me suis fait une réflexion. Tu vois, tu parlais d'Hazard et de Courtois. C'est marrant parce que les deux sont dans le même club.
Oui.
Et les deux, en fait, ont eu bah, des managers plutôt mauvais perdants.
Ah ouais.
Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, Mourinho, Conte, tu vois, enfin, c'est des. Le côté on est seul contre le monde entier et que
personne nous aime.
Voilà, c'est ça. Et il y avait un peu de ça, quoi. C'est le côté mauvais perdant. Et tu vois, et la phrase de ouais, la meilleure équipe a perdu, c'est une phrase très mourinienne.
Ouais. Tout à fait. On pense la même chose là sur ça. C'est vrai que j'avais pas fait le rapprochement, mais là. Et toi, Thibaut, comment t'as trouvé Thibaut Courtois sur ce match-là, mis à part à ses déclarations de fin de match? Il a été bon quand même.
Et c'est un super. C'est moi je dis après Lloris, c'est le meilleur gardien du tournoi. Hein.
Ouais.
Je reviens juste à ce que vous disiez les gars sur le côté mauvais perdant. Mais si les Belges se souviennent pas, c'est en Courtois contre le Brésil. Je pense que c'est le Brésil qui passe. Hein. Je sais pas si vous êtes d'accord les gars, mais
sur la fin de match, il y a une égalisation qui est pas loin. Ça se joue à rien. Hein. Mais le football champagne qu'il y a eu pendant ce Belgique-Brésil, il était pratiquement impossible, j'ai trouvé moi, sur ce France-Belgique à jouer. C'est-à-dire que on avait deux défenses vraiment très solides sur les défenseurs centraux. Et ça allait vraiment se jouer sur le milieu de terrain. Et comme a dit Thibaut, Dembélé, ça a été la plus grosse erreur tactique, je pense, de Martinez. D'avoir mis ce joueur qui était paumé de A à Z. Il n'a pas su maîtriser et puis outrepasser les contres, etc., de Matuidi et Kanté. Alors Kanté, il a été formidable, encore une fois. Hein. Facile dans tout. Il s'est jamais énervé. Il dit jamais rien, il proteste pas. Il s'est pris un carton, malheureusement, parce qu'il était un peu trop sur les épaules, au sens propre figuré. Voilà. Mais ce milieu de terrain français, là... Si vous voulez mettre des notes aux joueurs, ça je pense que ça flirterait avec les 8 sur 10 ou des choses comme ça.
Clairement.
D'ailleurs, si la France va au bout de la Coupe du Monde, je vois bien quand t'es meilleur joueur de la Coupe du Monde.
Ah, il est bien parti là. Il est vraiment
Après, ça dépend comment l'élection se fait, quoi.
Ouais. Tu penses qu'il y a un sponsor derrière?
Non, ce que je veux dire, si c'est le public, ça pourra jamais être Kanté, quoi. Ce sera forcément Mbappé.
Ah.
Parce que. Ouais, c'est pas bête que tu dis. Ouais, voilà. Par contre, si c'est vraiment des personnes du foot qui gèrent l'élection, quand t'as des chances. Et je pense que pour le foot, il y en a beaucoup qui disent que si un joueur défensif est mis en avant, c'est pas bon pour l'équipe, c'est pas bon pour l'image. Mais je trouve que si Kanté pouvait, enfin déjà. Si la France gagne, on touche du bois, de la peau de singe, tout ce qu'on veut.
Ouais.
Si la France gagne et que on peut avoir N'Golo Kanté en fait en tête de gondole, ça fera tellement bien au foot parce que le mec, il se donne à fond, il est toujours souriant et c'est l'anti-star. Et quand on voit, enfin moi perso, je trouvais ça insupportable ce côté vedette, les Messi, les Ronaldo, les Neymar. Moi perso, c'est pas le foot qui me fait rêver quoi.
Ouais.
Et si on peut réhabiliter justement des joueurs comme Kanté, des joueurs comme Giroud, voilà, je fais exprès de répéter encore Giroud parce que ce que j'ai pas lu, ce que j'ai pas entendu encore aujourd'hui, même dans l'équipe ils lui ont mis 5, je dis c'est des salauds, franchement c'est des salauds. Quand j'ai vu ça, je dis non, vous n'avez pas le droit de mettre 5 à un mec qui s'est donné comme il s'est donné, c'est interdit quoi.
Ouais, et puis en équipe de France, il a toujours été irréprochable. Certes, on peut lui reprocher il y a un manque de finition, mais le travail qu'il fait avant, c'est.
C'est monumental.
Hier, j'ai écouté un truc hier. Ils ont fait un parallèle entre Cavani et Giroud. Je sais pas, moi j'ai entendu ça parler sur BFM en rentrant hier soir.
Ouais.
C'est vrai que c'est un peu le même profil entre guillemets Cavani et Giroud. J'ai deux excellents combatteurs. C'est deux mecs qui pourraient y reprocher que des fois qu'on raillait Cavani pour ce manque de finition. Et derrière, on ne pouvait pas lui reprocher tous ses efforts, etc. Puis les gens qui lui mettaient 5, c'était la même chose. Je dis la même chose pour Giroud, de toute façon. Giroud marque un doublé en finale, certains qui le taillaient vont l'encenser derrière. C'est vraiment.
Franchement, même hier sur les Champs-Élysées, il y a des gens qui chantaient des chansons pour dire, en gros, je ne me rappelle plus des mots, mais bon, c'était un langage plutôt fleuri, pour dire Giroud, t'es nul, quoi. Mais pourquoi vous venez faire la fête? Giroud, t'es nul. On a été champion du monde avec Guivarch qui a pas mis un but et qui était bien plus mauvais que Olivier Giroud quoi. Vraiment, faut pas avoir la mémoire courte quoi. Et comme on disait, ça reste dans l'expression collective. Aujourd'hui, on a, aujourd'hui la France, l'équipe de France, c'est un collectif. Pareil qu'on, bon, comme ça, on fait la revue en même temps, quoi. Quand j'entends Griezmann fait une mauvaise Coupe du Monde, à un moment, faut arrêter. Au moins, faut arrêter. Parce que vous voulez, parce que, en fait, vous dites que Griezmann fait une mauvaise Coupe du Monde parce que vous voulez qu'il fasse, comme c'est censé être la star, vous voulez qu'il fasse une Coupe du Monde à la Cristiano ou à la Messi, qu'il prenne un ballon et qu'il dribble tout le monde. Ben non, c'est pas ce qu'on lui demande. On lui demande d'être au service du collectif. Et puis, même si c'est deux buts et une boulette, bah, le mec, pour l'instant, il a mis trois buts, quoi. Et c'est le meilleur buteur de l'équipe.
Ah ouais. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Moi, je pense que, de toute manière, il y a cette méconnaissance du foot, de la psychologie d'un match, comment aborder un match et comment le comprendre et l'analyser. Il y a beaucoup de jeunes qui sont aveuglés par plein d'analystes.
Par le bling-bling, par tout ce qui est clinquant.
Voilà, les réseaux sociaux, les Twitter, les Facebook, justement des pseudo-journalistes, voilà, qui se prétendent journalistes du jour au lendemain avec dans les petits médias. Maintenant, il y a tellement de médias qui parlent de foot, c'est compliqué de se dire tiens, lui il a raison, non c'est l'autre qui a raison, après il y a un autre avis ailleurs. Et là j'en reviens encore à une histoire hallucinante. Hier on gagne le match 1-0, c'est un des plus beaux matchs de l'équipe de France, sur le plan tactique, intelligence de gestion, de maturité, les attaques bien placées, etc. Enfin, c'était vraiment un superbe match. Et j'entends sur RMC, une personne, voilà, qui est à contre-courant, Riolo, qui dit, voilà, si vous voulez qu'on aille en finale et qu'on gagne avec le jeu moche, eh ben, écoutez, blablabla. Enfin, il continue dans son histoire de jeu moche. Mais à quel moment il a déclaré que le jeu parfait, le jeu ultime, c'était le Brésil des années 70, en 2018. C'est-à-dire que en 70, il y avait pas de défense, il y avait pas de défenseur. Tu passais 2-3 joueurs à 100 à l'heure, les mecs ils n'avaient aucune condition physique. Comment tu veux dire le beau jeu, c'est ça? À quel moment le beau jeu c'est défini par un journaliste? Faut arrêter à un moment donné, je veux dire.
Je vais même aller plus loin dans ce que tu dis. Hein. Quand on va tirer le bilan de cette Coupe du Monde, quelle équipe a produit du jeu, honnêtement? Personne.
Produit.
Une équipe qui s'est montrée assez complète, on verra si c'est le cas physiquement, c'est la Croatie qui a produit du jeu, mais qui a su par moments faire le dos rond. Par exemple, contre l'Argentine, ils n'ont pas eu trop le ballon, mais ils ont puni.
C'est ce que j'allais dire. Je pense que l'Argentine, en fait, l'Argentine, la Croatie, je pense qu'on s'est fait avoir justement par le match de l'Argentine.
Oui.
Parce que le score était gonflé. Mais quand tu regardes, en fait, quand ils sont sortis des poules, on s'est pas régalé.
Non.
Si tu me dis qu'il y a une idée de jeu, j'ai envie de te répondre que ouais, il y a une idée parce que t'as des joueurs talentueux. Mais en termes d'expression collective, avec une volonté de poser un jeu avec des schémas tactiques clairs pour aller de l'avant, même la Croatie, j'ai pas l'impression. Hein. Mais c'est mon avis.
Ouais, mais produire du jeu, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Produire du jeu, est-ce que c'est attaquer à tout va et défendre avec trois défenseurs comme a fait l'Argentine? Ou est-ce que c'est construire méthodiquement son attaque en plaçant des joueurs à la ligne médiane et en jouant comme le Barça, etc., comme l'Espagne? Parce que l'Espagne a produit du jeu, mais voilà, ils sont où l'Espagne? Ils se sont fait sortir parce qu'ils ont joué au handball. À un moment donné, faut tirer, faut pas non plus marcher avec le ballon dans les pieds et l'amener derrière la ligne. Il faut tenter des choses. C'est pas un sport où on rentre dans les buts avec le ballon. C'est produire du jeu pour moi, c'est compliqué à définir. Hein. C'est comme dire le beau jeu, qu'est-ce que c'est? Le jeu moche, sur certains continents et certains pays, le beau jeu, c'est quoi? C'est la défense. En Italie, ils adorent c'est un art, la défense. Bien défendre, c'est compliqué.
En Angleterre, ça va être le combat physique.
Tu vas en Uruguay, le beau jeu, c'est la défense, c'est marquer un but avec un ou deux attaquants. T'as 8 défenseurs.
En France, c'est faire des touches. Tu vois,
Il y a plusieurs conceptions du beau jeu et c'est très subjectif. Alors, pour moi, des gens comme Riolo, voilà, qui passent à la télé 24 heures sur 24 et qui induisent en erreur des gens, justement, parce qu'il est peut-être le seul, personnage à la radio qui argumente ses propos par des faits, des stats qu'on peut pas forcément vérifier. Voilà, c'est complètement. C'est pour moi, quand il fait des leçons de morale sur la vidéo, sur l'arbitrage et les mains qui sont à l'interprétation de l'arbitre, bah lui, il interprète des situations de jeu, c'est pareil.
Ouais.
C'est. Enfin bon. Bref, voilà, on va passer sur ça. Tu voulais rajouter quelque chose, Thibaut, sur un peu les journalistes qui parlent de.
Ouais, mais moi, de toute façon, j'écoute plus trop ce que je veux dire. Ce qu'il dit, c'est que le football, c'est pas seulement, je dis. C'est des 10 numéro 10, et puis je veux dire, je dribble tout le monde et je marque. Il y a une idée pensante, réfléchie, il faut savoir construire son, comment organiser son match, construire son match, et pour le gagner. Ce que fait parfaitement, c'est faire des Deschamps.
Ouais, tout à fait. Ouais. Bah, pour moi, il serait pas loin d'être le meilleur coach de la Coupe du Monde actuellement aussi, hein, parce que je vois pas quel coach avec un effectif aussi, comment dire, varié. Avec des jeunes, parce que Deschamps, il a pris des jeunes aussi, hein, c'est ça qu'il faut voir, hein. Il a pas pris des mecs qui étaient là, confirmés, il a pas pris des Thuram, des Zidane, des Laurent Blanc, il a pris des Pavard, des Tolisso, il a pris, je sais plus qui encore, bah, des Fekir.
Même il a pris des risques aussi, hein, parce que quand il prend Mendy, Sidibé,
blessés, qui sont.
Ouais, non, mais voilà, en sachant que, bah, ils sont pas sûrs de jouer, et le pire, c'est qu'ils jouent pas. C'est super risqué, enfin même voilà, sa liste reste audacieuse.
Oui. Bah, d'ailleurs la joie qu'il a à la fin du match, vraiment ça signifie, ça représente tout le travail. Il est conscient de ce qu'il a réalisé avec cette équipe de jeunes, et j'espère vraiment que moi, ce que je comprends pas, voilà, je reviens à ça, c'est qu'en 98 Aimé Jacquet, il s'était fait défoncer par le plus grand journal de l'époque. Et Aimé Jacquet avait dit qu'il pardonnerait jamais. Ben moi, je serais très heureux si Deschamps, justement à la fin de cette compétition, puisse désinguer 2-3 journaleux. Ça me ferait vraiment plaisir, parce que il y a un moment donné, faut que ça s'arrête, quoi. Le mensonge dans les journaux pour pas pour être forcément contre une équipe, mais il y a pas d'argument dans leur papier. C'est ça le problème. Quand tu mets 5 à Giroud. Et que tu connais pas le foot, mais pas ça, que tu notes une autre personne à ce moment-là, voilà, je sais pas. Vas-y, Joseph.
Hein. Non, j'allais juste dire, en fait, des fois, t'as l'impression que y a un côté règlement de compte.
Oui.
En fait, on n'aime pas Deschamps, donc comme c'est lui le coach, bah, on désingue tout ce qu'il y a derrière, quoi. J'espère que dimanche, il fermera des bouches, quoi.
Moi, j'espère aussi. Et puis, moi, ce qui ferait plaisir, c'est genre que Giroud, c'est lui qui marque le but des finales. Il le mériterait tellement par rapport à ses efforts, mais. Je pense que ça ferait taire pas mal de noms. Et puis tu verras, je te disais que les chants contre Giroud, là, ça transformerait en chanson de Giroud, tu vois. Donc,
Ouais. Non, et là, le top du top, c'est qu'il marque, et en dessous, sous son maillot, il a un t-shirt Karim Ki. Et là.
Ça, ce serait marrant. Je pense pas qu'il fera parce que c'est un bon mec.
Ah, mais moi, j'en rêve. Bon, pas de polémique, c'était pour faire un bon mot.
Ouais. Mais l'homme du match, vraiment, hier, je trouve, côté équipe de France, bah, c'est Lloris, hein, parce qu'il a fait 2-3 bons arrêts vraiment décisifs encore. Il a été vraiment exceptionnel. On a donné Umtiti homme du match. Bon, moi, je pense qu'il y a débat vraiment entre Varane et Lloris, parce qu'il a tenu la maison.
Je mets un bémol comme sur Umtiti, il a mis un but, mais je sais pas si. Moi, je me souviens au début des préparations du match où il est passé 2-3 fois au travers.
Ah oui, son dégagement raté à la barcelonaise.
Quand on parlait des notes, bah, lui, il a eu 8 et je trouve qu'il est surnoté, justement. En fait,
Umtiti, je pense qu'il est largement surnoté, je veux dire.
Il rate une demi-heure du match, hein, c'est beaucoup.
Hein. Non, c'est clair. Alors que Varane, énorme. Et d'ailleurs, ce que j'aime bien, c'est qu'on entend souvent que Varane est bon au Real parce qu'il est à côté de Sergio Ramos. Et là il montre que voilà, il a besoin de personne, quoi.
Actuellement c'est Ramos qui est à côté de Varane.
Mais il a appris beaucoup, je pense que Ramos, de l'amélioration de Varane, je pense que Ramos y est pour quelque chose aussi. Puis aussi l'apport de Zizou dans son calme et cette sérénité en défense. J'ai l'impression que Varane en défense, je sais pas, vous avez l'impression, les gars, il ne panique pas.
Qu'avec
le ballon, ça, il avait déjà, il avait une sérénité.
Mais il a mis en plus l'agressivité dans les duels, c'est deux fois où il a sorti le ballon, etc. Donc, je trouve qu'il a rabougé de l'agressivité à son jeu.
Oui,
tout à fait. Et puis, sérénité, agressivité. Moi, il commence à me rappeler certains grands défenseurs italiens qui s'énervaient jamais, qui faisaient pas de fautes. Parce que vraiment, Varane, dans son jeu, il est propre. Hein. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais il est propre.
C'est clair.
Hein. C'est pas clair. Un boucher, quoi. Le mec, il défend avec classe. Hein. Vas-y.
Et d'ailleurs, ce qui est intéressant avec le fait que Varane il soit en mode patron, c'est que Varane n'était pas là en 2016. C'est-à-dire qu'il n'a pas forcément vécu le traumatisme de la finale perdue.
Ouais.
Et lui, en plus, il a plutôt la chance d'être sur 3 finales d'affilée où il gagne. Donc, du coup, voilà, le fait d'être crédible sur le terrain, dès qu'il prendra la parole, en fait, il apportera en plus à cette crédibilité par rapport à son expérience dans la gestion des finales.
Mais c'est exactement ce que vous dites. Il y a une joie de vivre dans cette équipe de France. Tu vois les remplaçants qui sont heureux d'aller s'échauffer. Tu vois même des après-matchs où tout le monde va célébrer sur un but, comme contre l'Argentine. Des vidéos où les gens sont heureux à l'hôtel, etc. Il y a une superbe ambiance. Là, moi, je pense que vraiment, l'âme au-dessus de cette équipe est tellement forte que même dans la difficulté, en finale, ils vont l'emporter. Moi, je suis pratiquement certain à 95%, 99% que la France va être championne du monde. Je vois pas l'Angleterre ni la Croatie les battre parce que l'Angleterre et la Croatie, ils se cherchent encore un collectif. Et la Croatie, moins, on est d'accord, mais l'Angleterre, c'est un bordel en attaque. Il faut dire les choses.
Quand tu vois Sterling le dernier match, c'est n'importe quoi.
Ouais, voilà quoi. Donc, de toute manière, on verra l'adversaire de l'équipe de France qui jouera ce soir. On pourra se donner un avis un peu plus serein pour savoir exactement. Mais je pense qu'il y aura des prolongations ce soir.
Mais avec la chance de Didier Deschamps, peut-être qu'il y aura un blessé, genre important dans les deux équipes, ou un suspendu. Ce qui est arrivé, quand en quart, Cavani blessé.
Faut qu'il y ait un rouge, je crois. Faut qu'il y ait un rouge, parce que les jaunes.
Ou blessure. Rouge ou blessure.
Ouais.
Alors, moi, franchement, même si on parle toujours de la chance légendaire de Didier Deschamps, moi, j'aimerais bien que l'équipe qui est en face, ils soient tous là. Et que justement, ça permet de ne pas minimiser la victoire. Parce que j'ai pas envie qu'on soit champion du monde et puis que derrière on dise ouais mais
Modric
était pas là ou Kane était pas là, tu vois. Et même si on veut une belle finale, c'est mieux quand toutes les forces en présence.
Pour le jeu, on a tous vu ça. Hein. Bon, à l'Euro 2016 quand Cristiano était pas là, ça aurait été différent si la France avait gagné. On aurait dit, voilà, Cristiano, il était pas. Enfin, bref. Vas-y, Thibaut. Hein.
Moi, j'ai dit que je vais revenir pour le match de l'Angleterre. J'ai vu une vidéo sur Internet comme quoi les Anglais voyaient déjà rapporter la Coupe du Monde selon les journalistes anglais. Ça ne sont pas les joueurs, je pense pas. Mais si j'étais croate et puis que j'apprenais ça, je veux dire.
Je pense que ça va jouer beaucoup, ça. Ouais.
C'est
le genre de truc que les Croates n'aiment pas trop. Hein. Vas-y.
Ouais, et puis sinon, je trouve que les Anglais manquent beaucoup d'expérience. Ils ont une très jeune équipe.
D'humilité aussi.
Je trouve que les joueurs, peut-être, je dis pas un peu trop sur deux. J'ai l'impression que les Anglais, certes, ils ont une équipe correcte, d'être 2-3 bons joueurs, mais ils n'ont pas eu, dans cette Coupe du Monde, pour moi, un gros adversaire. Quand ils sont rentrés contre la Colombie, ils sont fait bien bouger.
Contre
la Suède, ils ont été tranquilles. Mais j'attends de voir ce soir. Ça va être un bon test pour l'Angleterre ce soir.
En fait, tu regardes, c'est pas un hasard, hein, mais ils étaient dans la même poule que la Belgique. En fait, au bout de 2 matchs, tout le monde en a fait les favoris parce qu'ils ont mis des taux à des équipes de peintres. Et finalement, dès que le niveau s'est élevé, ils ont eu beaucoup plus de difficultés à imposer leur soi-disant jeu flamboyant, quoi.
Ouais, tout à fait, mais je pense que c'est un peu ça qui a été dans la tête des Belges.
C'est un trompe-l'œil.
En se disant, on a foutu je sais pas combien de buts en phase de poule et aux autres là, et on arrive contre la France, on se fait éliminer parce qu'ils ont défendu. Mais et personne n'a défendu contre vous avant.
C'est pas la Tunisie, c'est pas le Panama. Valladolid, tu vois.
D'ailleurs, j'ai vu Stéphane Guy pendant cette Coupe du Monde, il a été mis au placard.
Je sais pas où il est, mais ça fait du bien de pas l'entendre.
Il est sur Canal+, de toute façon. Canal+, ça n'a pas les droits de la Coupe du Monde.
C'est certain. Mais par contre, je sais pas si vous avez vu, Canal+ Afrique retransmet les matchs de la Coupe du Monde. Par contre, avec Bein, quoi. C'est quand même bizarre cette histoire de partenariat sur différents continents.
On ne comprend plus rien.
Habib Bey est sur Canal Plus Afrique actuellement. Je trouve qu'on perd un bon analyste avec lui, c'est dommage parce que finalement.
Je trouve très pertinent Habib Bey dans tous ses commentaires, etc.
Sur Canal, c'est meilleur.
Voilà, parce que sur d'autres chaînes, malheureusement, on a du mal à pouvoir analyser un match avec d'autres personnages. Il y a tellement de pubs, il y a tellement de blabla. Ouais.
Et pourquoi vous trouvez que Pascal Duprat, il est pas bon sur TF1?
Je sais pas quoi en penser.
Moi, j'ai pas écouté. Moi, j'écoute pas les matchs de sur TF1. J'écoute surtout.
Non, 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 c'était pour.
Il a,
pour
faire il a pas l'air. Ouais. Il a pas l'air heureux d'être là. J'ai l'impression. Et puis de l'autre côté de la table, bon, on a Nathalie Yaneta qui essaye de faire des blagues, qui est pas drôle, et qui hier nous a lancé un France 90, on en a ras-le-bol de les entendre, machin. Alors la tête qu'il faisait après de Georges KF et les autres. Non mais c'est vraiment bizarre. Je sais pas. Elle a l'air un peu hautaine dans sa façon de penser, un peu supérieure. Je sais pas, elle a... Enfin, bon, elle a pas sa place, moi, je trouve, de toute manière, dans l'analyse d'un match. Elle est plus là pour présenter, mais bon, enfin, bref.
Mais bon, on a deux sujets.
ouais. Non, mais le MAG, finalement, c'est une bonne émission sur TF1, mais ça manque de... Ça manque de profondeur à... Voilà, ça reste plus grand public, hein, c'est...
Ouais, ça reste TF1, quoi.
Ouais. Non, mais sinon, pour revenir rapidement sur le match de la Belgique et de la France, moi, je fais une petite analyse sur, justement, le jeu d'Mbappé qui a été beaucoup modifié durant ce match-là, parce que, malheureusement, les Belges ont... Malheureusement pour Mbappé, c'est qu'il n'y a pas eu de grande course qu'on a pu voir d'Mbappé, parce que les Belges ont défendu très bas avec les défenseurs. Et justement, ça manquait de profondeur pour lancer Mbappé, etc. Et Mbappé, je trouve qu'il a joué, il a bien joué en retrait, justement sa talonnade là qui décale, où il a été marqué par deux joueurs assez constamment durant tout le match. Il fallait vraiment s'attendre, comme t'as dit Joseph en début d'émission, c'est que ça allait être un but d'un défenseur ou d'un joueur qu'on n'attendait pas dans ce match, qui allait pas être marqué justement.
Ouais.
Et quand tu vois que Fellaini, il laisse de l'avance à Umtiti sur le corner, mais ça c'est une faute défensive mais monumentale. Ouais, il est derrière Umtiti, quoi, mais attends.
Et il a pas attaqué le ballon. La règle sur un corner, c'est pour prendre juste son adversaire, c'est attaquer le ballon, et Umtiti l'a attaqué puis il a été récompensé.
1m91 de rien du tout dans le dos de Umtiti, à quoi ça sert?
Ouais, grave.
Donc voilà, quoi. Et puis voilà, pour revenir un peu sur la qualité de ce match, c'était un match assez intéressant. J'ai trouvé qu'il montre vraiment que la France est solide et que les Belges n'avaient pas... Je trouve que les Belges sont arrivés à un niveau qu'ils pouvaient pas dépasser, on va dire, contre le Brésil. Ils étaient arrivés au maximum de ce qu'ils pouvaient faire. Et je trouvais vraiment pas un moyen dans ce match-là pour eux de revenir au score, de marquer. T'avais un Lloris impérial, t'avais une défense sereine. Même Pavard, il a pas été forcément mis en danger, hein, par rapport à ce qu'il a eu contre l'Argentine, où il a vraiment eu du mal.
Au début, un petit peu, où Hazard est beaucoup passé, mais après, il y a eu un vrai soutien des attaquants, où Giroud a fini numéro 6.
Ouais.
Donc, voilà, après, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce match France-Belgique, aborder un sujet sur...
J'ai remarqué que Mbappé a fait preuve d'un plus en plus de vice pour son âge. Je sais pas si t'as vu à la fin du match traîner un petit peu, etc. Je veux dire, on sent vraiment qu'il sa Coupe du Monde, il lui fait passer quelques étapes. Je trouve moins égoïste avec le ballon, je veux dire, par moment, et puis jouer beaucoup plus collectif. Et j'ai l'impression qu'il est en train de changer encore un peu plus son jeu, en train d'évoluer encore. Tu vois ce que t'en penses de Joe, toi qui le connais depuis Monaco?
De quoi?
Qu'est-ce que t'en penses? Par rapport à l'évolution d'Mbappé, c'est cool. L'exemple
que tu donnes, je pense qu'aujourd'hui, même un match de U11, si tu mènes 1-0 et qu'il reste 2 minutes, même le gamin, il ira jouer la montre. Hein. Je pense que en France, je pense qu'on n'aura plus jamais d'ex-saucette à la 93e.
Traumatisme.
Je pense que ça arrivera plus jamais. Mais non. Le vice, il en avait déjà un peu. On est encore loin quand même du Mbappé de Monaco. D'ailleurs, hier, il nous a encore fait des petites passes derrière la jambe et tout. Je me suis dit ça, il faut qu'il arrête parce que c'est un truc à se faire cisailler, quoi.
Ouais.
Mais hier Mbappé il fait ce qu'on attend.
Je trouve qu'il est en progrès dans cette Coupe du Monde. C'est pas encore mieux, mais par rapport à sa première Coupe du Monde, ce qu'il fait, c'est quand même exceptionnel.
Par rapport à sa première Coupe du Monde, c'est-à-dire
c'est la première grosse compétition qu'il fait
Coupe du Monde, d'accord. Okay.
Voilà, donc je trouve que c'est exceptionnel ce qu'il fait à son âge. On a l'impression, quand il a le ballon, je dirais que les défenseurs adverses, même si on faisait belle, c'est des joueurs qui jouent à Tottenham, ils avaient peur de lui. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de défense dans ces Coupes du Monde. Ils savent pas à quoi s'attendre, il y a une crainte. Donc, voilà.
Oui, oui.
Sinon, ouais. Sinon, moi, j'aurais deux points à relever. Le premier, c'était Thierry Henry sur le banc belge. Je vous cache pas que ça m'a beaucoup dérangé en fait le traitement qu'il a encore eu dans les médias ou sur les réseaux sociaux, le côté un peu traite machin, alors que Thierry Henry, il attendait qu'une chose, hein, c'est qu'on lui donne des fonctions, hein, mine de rien, dans le foot français. Voilà, on lui a juste refusé parce qu'il voulait garder sa place de consultant à la BBC. Quand on voit que les équipes nationales, ça prend pas, c'est pas forcément un job à temps complet. Ouais, ouais. Voilà, enfin, je trouve ça dommage qu'on en profite encore pour le salir, alors que pour moi, enfin, c'est une légende du foot français. Et respect à lui qui est resté dans son coin et qui avait des arguments pour répondre et qui est pas tombé dans ce jeu-là, parce que je pense que c'était peut-être une espèce de petite provocation et ça a pas marché. Et un truc plus joyeux, ça faisait plaisir enfin de voir une belle tribune bleue avec des supporters. On avait même droit à une grecque. Voilà, c'est peut-être le premier match où il y avait plus de supporters français que de supporters adverses. Mm-hmm. Et le fait que ces supporters voient une victoire, et en plus j'ai une pensée pour les potes qui sont là-bas.
D'ailleurs, notre président dédicace à Hervé, hein, notre président. Voilà. Qui fait un travail de fou là-bas, et puis toutes les coordinations, et puis tous les IF qui sont présents là-bas.
Ouais. Et voilà, donc on dit souvent qu'il n'y a pas de supporters en France. Et j'espère que ceux qui ont regardé le match, ils ont bien regardé la tribune et ils ont vu que non, en fait, il y en a. On est peut-être moins que les autres, mais on est fervent.
Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai qu'ils ont fait un travail exceptionnel, les IF là-bas, même si sur certains matchs, voilà, on était en déficit de supporters par rapport aux Pérouviens, par exemple.
Ouais.
Mais je pense qu'on se rattrape vraiment bien. Et puis, il y a un côté fair play que nous, les Français, on a à chaque fois, un peu comme les Belges aussi. Les supporters belges, vraiment, ils sont pas mauvais perdants par rapport à certains de leurs joueurs et je pense que maintenant les Belges ils vont essayer de supporter les Français comme on a vu à la télé et vraiment ça se passe bien je pense dans les fan zones là-bas il y a une bonne ambiance il y a pas d'agressivité le fait de pointer au match etc avec la carte le billet c'est une très
avec
bonne idée
avec la fan ID c'est pas mal ça réduit le marché noir
tout à fait c'est-à-dire
que si t'as pas de fan ID tu peux pas rentrer. Enfin, ça réduit, mais ça l'empêche pas, hein, parce que si t'as une fan ID, tu peux récupérer une place pour les matchs. Mais ça évite aussi, le côté des tribunes complètement disparates, même si on en a, mais le côté, un groupe qui récupère des places et qui se retrouve au milieu d'une tribune adverse ou des trucs comme ça, ça pour le coup, on en a quasiment pas eu. Je vais quand même mettre un bémol là-dessus. La FIFA a pas forcément beaucoup respecté les supporters français dans le placement. Ouais. On a rarement eu des parkages en fait français. On a eu beaucoup de petits groupes par-ci par-là et rien n'a été fait pour qu'ils soient regroupés. Ouais. Justement quand Thibaut parlait de notre président, il a. À son niveau, il a essayé avec la Fédé de travailler pour que justement on puisse avoir une tribune comme ça de dire.
Non, mais c'est vrai que tout le travail lui revient hein, par rapport à l'organisation et tout. C'est vraiment, ils ont fait du super bon travail. Niveau ambiance, chant. Moi, franchement, je remercie vraiment les chaînes de télé là d'avoir pour une fois mis les moyens pour qu'on entende les chants dans les tribunes parce que malheureusement quand c'est TF1 qui diffuse un match au Stade de France on vous entend pas les supporters à cause des micros qui sont placés près des bandes touches, faudra un jour m'expliquer parce que l'intérêt du spectateur c'est quand même de sentir l'ambiance qu'il y a dans le stade, c'est pas d'entendre les commentaires du banc de touche voilà quoi. Et puis l'autre petite info aujourd'hui entre guillemets qu'il y a, c'est Cristiano Ronaldo qui part à la Juventus pour 4 ans. Moi sincèrement je trouve ça étonnant et décevant un peu par rapport aux joueurs qui je sais pas ce qu'ils cherchent exactement. T'en penses quoi Joseph toi?
Moi, quand j'ai vu ça, bon, déjà, quand il y avait eu la rumeur, je trouvais que c'était du n'importe quoi. Et le fait que ça soit signé, c'est. Alors, autant le joueur, tant mieux pour lui, mais le club, je comprends pas. Un club comme la Juve, en fait, qui est pas du genre à claquer autant d'argent sur un joueur, et en plus, un joueur en fin de parcours, quoi. Tu le fais signer 4 ans, mais tu sais, de toute façon, à l'âge qu'il a, qu'il te fera pas 4 ans de haut niveau. Donc, si même la Juve commence à faire des choix marketing, ça sent pas bon pour notre foot, quoi. Parce que c'est non, parce qu'en fait, j'ai envie de dire, il y a des clubs pour ça. Autant le même contrat, il va à Paris. Bon, si on sait que c'est pas possible aujourd'hui, ça m'aurait moins choqué. Parce que les deux s'y retrouvent. Paris a besoin de briller, donc de prendre des joueurs de ce type. Et pour finir sa carrière, c'est pas mal, quoi. Sans dénigrer la Ligue 1, voilà. Je pense que Cristiano Ronaldo, il peut faire 2-3 ans en Ligue 1 au niveau encore tranquille.
Excuse-moi d'interrompre, je discutais avec j'ai un traiteur italien avec des amis qui adorent le foot. Ils disent en Italie, la Juve, c'est sûr qu'ils vont cartonner en championnat d'Italie parce qu'ils n'ont pas trop de concurrents, encore plus avec Cristiano. Mais en Ligue des Champions, je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Hein, ouais. La Juve le prend pour gagner la Ligue des Champions, je pense.
Mais après, je ne suis pas sûr que ce soit le bon achat. Ça me faisait penser un peu à LeBron James qui part aux Lakers, quoi.
On va se retrouver tout seul.
Voilà, on comprend pas parce que du coup ça veut dire tous les joueurs offensifs là, les Dybala, les Higuain, les un mec comme Cuadrado déjà qui joue pas beaucoup, qui risque encore de moins jouer avec Cristiano Ronaldo. Voilà, je pense que les clubs s'ils ont des courses à faire, je jeter un coup d'œil du côté de la Juve, je pense que si les agents sont bons, il y a moyen de récupérer du monde.
Ah oui, mais là ça sent vraiment le départ d'Higuain. Je veux pas crier sur tous les toits, mais je pense que beaucoup de supporters Juventini là, ils savent que Higuain ou Dybala vont partir là, un des deux.
Ouais, Dybala veut rester, veut jouer avec Ronaldo, il l'a dit, mais est-ce que
Ça c'est pratiquement sûr. Après, dans quel club il pourra aller, Higuain, je sais pas. Je le vois pas aller au PSG, sauf si Di Cavani s'en va. Mais écoute,
j'ai prêché pour ma paroisse, mais si Falcao il part,
ouais, à Monaco, ouais, pourquoi pas.
Hein. Ce sera un très bon coup.
Ouais. Je pense que ce serait cohérent et c'est autant le joueur que le club s'y retrouverait, quoi.
Mais je me suis toujours demandé si la Juve, ils avaient changé de président ou de directeur sportif actuellement cet été. Parce que pour prendre un joueur comme Cristiano, qui est pas du tout dans l'esprit de la Juve, dans sa progression actuelle, c'est le projet Dortmund, on l'avait à la Juve, si vous voulez, à un moment donné.
Non, clairement, ouais.
Là, on retourne dans le business à fusion, je sais pas.
Ouais, alors que c'est vraiment pas le genre du club, quoi. Pour ça, je comprends pas. Mais ils font des choix bizarres en ce moment, la Juve. C'est un détail, mais quand tu vois le scandale qu'il y avait eu pour le nouveau logo, qui ressemble à rien, quoi.
Ouais,
voilà, enfin, tu vois, ça continue, en fait, dans cette série de choix bizarres, quoi. S'il gagne avec des champions avec Cristiano, on pourra rien dire, hein, mais pour l'instant, voilà, j'attends de voir.
Et toi, Thibaut, t'es pas un peu déçu qu'ils viennent pas au PSG finalement?
Non, pas spécialement, je veux dire. Je suis pas déçu, je veux dire. Moi, je pense que j'aurais rajouté un plus 5 ans pour Mbappé. Moi, j'ai envie de faire confiance à Kylian Mbappé. Après Neymar, hein, je commence à être très déçu de son comportement, c'est sûr.
Oui.
Là, c'est un autre débat, mais je pense que le PSG n'a pas besoin de Cristiano, je veux dire.
Dans la progression actuelle, c'est clair, ça. Ça aurait demandé à un joueur ou deux de partir du PSG alors que il est inscrit dans le collectif. Voilà.
Franchement, tu faisais partir Neymar, tu fais venir Cristiano, ça aurait eu du sens. Je pense que ça aurait eu du sens.
Et encore, parce que c'est pas forcément la même position exacte, quoi.
Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que en termes de en termes de star, ben tu perds pas au change, et surtout en termes de côté humain, humainement, je pense que tu gagnes plus avec un Ronaldo qu'avec un Neymar, parce que mine de rien, quand tu vois la Coupe du Monde de Neymar, quand tu vois aujourd'hui que Neymar, mais tout le monde se pèse la tête sur Internet, je pense sa saison elle va être longue. Je pense que Je pense que sa saison elle va être super longue. Il va se faire siffler partout. Tout Neymar qu'il est. Voilà. Franchement, enfin, pour le PSG, voilà. Si le Real il veut remplacer Ronaldo par Neymar, mettez-le dans l'avion. Hein. Mettez-le dans l'avion si vous voulez.
Là, il y aura une offre de 375 millions d'euros, mais actuellement, je ne vois pas, je veux dire, le PSG accepter telle offre alors qu'il n'a rien prouvé au PSG, alors qu'il a fait qu'une saison, même pas une saison.
Ouais, mais t'as vu le mec que tu vas récupérer, le gars, en gros, il s'est mis en vacances, et je le dis bien, là, je fais pas de blague, hein. Il s'est mis en vacances, en fait, en mois de mars, parce que sa blessure, je pense que n'importe qui, un mois après, il revient. Non, le gars, il a décidé de pas revenir pour se préparer pour la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, finalement, sa Coupe du Monde, elle reste moyenne, je trouve. Ce qu'on va retenir de Neymar, c'est les roulades. Je sais pas si vous avez vu, je crois que c'est au Mexique, à la mi-temps d'un match, ils ont fait le Neymar Challenge. Je sais pas si vous avez vu ça. Vous avez pas vu. Donc en gros, en fait, ils ont pris une dizaine de spectateurs qu'ils ont mis au milieu de terrain, et en fait, ils font une course. En fait, ils doivent arriver jusque dans la surface en se roulant par terre. Ils ont appelé ça le Neymar Challenge, tu vois. Ouais. C'est pour te dire, en fait, t'es le niveau, enfin, jusqu'où ça a été, quoi. Et on dit souvent que les supporters, ils sont bêtes, c'est des consommateurs, machin. Je pense qu'avec Neymar, personne va le louper, quoi. Ouais, personne va le louper. Et les supporters de Paris, ils l'attendent de.
L'intérêt est très bon, parce que sinon, je pense qu'il va prendre une rafale de sifflets.
Ni les arbitres, hein, vont pas être tolérants avec lui, hein.
Ils ont tous vu ces roulades, et puis je pense qu'en Ligue 1, je crois comprendre, ils mettent pas la vidéo cette année en Ligue 1 ou vidéo, je sais plus, j'ai un doute.
J'espère que non. Enfin, c'est prévu, mais j'espère qu'ils vont revenir dessus, quoi.
C'est toujours les Allemands, là, qui font la vidéo, ou c'est
des... Il y a la Gold Line, pour la Gold Line, hein. Gold Line, je pense que ça a changé, c'est une autre société, mais je sais pas pour la VAR, je sais pas si.
Est-ce que c'est la même fourgonnette Volkswagen ou c'est une autre ou pas?
Ah ouais.
Le combi Volkswagen avec les sacs de couchage, la vidéo à l'intérieur. Au stade de la route de l'Orient, alors on l'attend celui-là.
Ouais.
Voilà, bon, ouais. Merci les gars en tout cas d'avoir participé à ce débrief de France-Belgique. On se retrouvera, je pense, après Croatie-Angleterre pour parler justement de l'adversaire de l'équipe de France. Je vous souhaite un bon match à tous pour ce soir, et puis à bientôt. Salut les gars.
Salut
tout le monde.